Radio Prague, les informations.
Bonjour, le président tchèque Miloš Zeman a félicité Alexander Van der Bellen pour sa victoire à la présidence autrichienne. Le gouvernement pourrait décider à lui seul de l'envoi des soldats à des missions courtes à l'étranger. Une conférence internationale des experts en astronomie en rayon X a commencé à Prague. Le président tchèque Miloš Zeman a félicité Alexander Van der Bellen pour sa victoire à la présidence autrichienne. D'après Miloš Zeman, les voix recueillies témoignent de l'espoir qu'incarne Alexander Van der Bellen pour les Autrichiens. La réaction du président tchèque est venue 2 jours après la tenue de la présidentielle autrichienne. Par le passé, Miloš Zeman n'avait pas caché son soutien au candidat d'extrême droite Norbert Hofer, reçu au château de Prague en septembre dernier. Le gouvernement pourrait envoyer des soldats tchèques à des missions courtes d'une durée maximale de 60 jours, même sans l'aval des parlementaires. C'est ce que prévoit un amendement à la Constitution présenté par un groupe de députés et approuvé lundi par le cabinet. À l'heure actuelle, toute intervention de l'armée tchèque à l'étranger doit être approuvée non seulement par le gouvernement, mais aussi par les 2 chambres du Parlement. Désormais, la Chambre des députés et le Sénat auraient seulement une fonction de contrôle. Le projet doit prochainement être adopté aussi par les députés. Au cours de leur conversation téléphonique, le prochain président des États-Unis, Donald Trump, a invité le chef de l'État tchèque, Miloš Zeman, à la Maison-Blanche. Selon le porte-parole du président, Jiří Ovčáček, Miloš Zeman pourrait se rendre aux États-Unis en avril prochain. Le président élu, Donald Trump, a particulièrement apprécié le fait que le président tchèque ait été l'unique président européen à l'avoir soutenu publiquement avant même la tenue de la présidentielle américaine, a déclaré Jiří Ovčáček. Pour sa part, Miloš Zeman a invité Donald Trump en République tchèque. Ce mardi, l'ambassadeur de France en République tchèque, Charles Malinas, a remis à l'ex-premier ministre social-démocrate Vladimír Špidla la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. La France a récompensé Vladimír Špidla pour ses mérites dans le développement des relations tchéco-françaises et pour son soutien à l'intégration européenne. L'actuel chef des conseillers du premier ministre Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, occupait le poste de chef du gouvernement au moment de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne en mai 2014, pour devenir ensuite l'eurocommissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances. Les innovations technologiques pour les satellites de rayon X ou la détection des ondes gravitationnelles, voilà quelques-uns des thèmes dont discuteront des experts dans le domaine de l'astronomie en rayon X lors d'une conférence internationale qui se tient à partir de ce mardi jusqu'à jeudi à Prague. L'événement réunit une 50aine de chercheurs de 11 pays, dont les États-Unis ou le Japon. Les nouveautés relatives à des préparatifs du futur observatoire spatial européen Athéna seront également au menu des discussions. Leader mondial de la bougie parfumée, la société américaine Yankee Candle a ouvert sa première usine en Europe dans la région de Most, en Bohême-du-Nord. Yankee Candle a investi dans sa branche européenne une somme de 50 millions de dollars. Dans un premier temps, l'usine devrait employer 300 personnes qui fabriqueront 20 à 30 millions de bougies parfumées décoratives par an, destinées au marché européen et britannique. Au cours des 3 prochaines années, l'entreprise compte augmenter la production annuelle à 50 millions de bougies et offrir un emploi à 400 personnes. Pour rappel, l'ancienne région minière de Most affiche le taux de chômage le plus élevé en République tchèque. Côté météo, après un mardi plutôt ensoleillé, mercredi, le ciel se couvrira sur une majeure partie du territoire, à l'exception de la partie est du pays, où le temps sera nuageux avec éclaircies. Les températures moyennes se situeront entre 0 et 2 degrés. Mercredi, nous fêterons les Ambroche et les Benjamin en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Alžběta Rušková.
Dobrý den, bonjour chers amis, bienvenue à l'écoute de Radio Prague, une émission en français consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Magdalena Hrozinkova pour son bulletin d'information. Ce mardi, nous nous pencherons tout d'abord sur la mission de l'armée tchèque à l'étranger et notamment sur l'envoi d'une équipe chirurgicale en Irak. Nous parlerons ensuite de la vaccination obligatoire des enfants, une question qui est toujours très présente dans la société tchèque. Et tout cela avant de passer à la rubrique Panorama dans laquelle nous vous présenterons Source Fabric, un institut basé à Prague qui est le plus grand développeur européen d'outils d'open space destinés aux médias. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'armée tchèque reste active en Irak où les combattants restent intensifs et la crise humanitaire grave. Lundi, une unité médico-chirurgicale composée de 17 spécialistes a rejoint un hôpital de campagne de l'armée américaine déployé dans la région de Mossoul. Par ailleurs, la participation des soldats tchèques à des missions de courte durée à l'étranger devrait être simplifiée dans un proche avenir. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Deux chirurgiens, un anesthésiste, plusieurs infirmiers et quelques autres spécialistes opéreront à quelques 70 km de Mossoul. Mossoul, ville du nord de l'Irak, contrôlée depuis 2014 par l'État islamique. Là, à une centaine de kilomètres des frontières syriennes et turques, l'équipe médicale tchèque doit concourir au succès de l'opération pour la libération et la reprise de la ville, engagée depuis quelques semaines par l'armée irakienne avec le soutien notamment des forces américaines et occidentale. Porte-parole de l'état-major des armées tchèques, Jan Schulz, précise de quoi il s'agit.
Il est prévu que cette mission dure jusqu'en juin prochain. Il s'agit de l'envoi d'une nouvelle équipe qui, dans les jours à venir, commencera à travailler dans le cadre de l'hôpital de campagne américain. Sa principale mission consistera à soigner les soldats blessés des forces armées de la coalition et irakienne.
Ce n'est pas la première fois que la République tchèque envoie une mission médicale en Irak et plus généralement dans le cadre d'une opération internationale. Actuellement, des médecins tchèques se trouvent ainsi également à l'hôpital de campagne américain installé à l'aéroport de Kaboul. L'Afghanistan, les Tchèques connaissent d'ailleurs bien puisqu'ils y avaient déjà apporté leur savoir-faire en 2002 et 2003. Il en avait été de même par le passé en Croatie, en Albanie, dans un camp de réfugiés ou encore en Turquie après un tremblement de terre. Mais quel que soit le contexte, l'urgence est toujours la même, comme le rappelle Jan Schulz.
Il s'agit de soins de première nécessité, de chirurgie vitale, c'est-à-dire qui consiste d'abord à sauver des vies ou par exemple à éviter des amputations, qu'il s'agisse des membres inférieurs ou supérieurs. Le but est d'offrir une prise en charge le plus près possible des lignes de front aux personnes très grièvement blessées. Il s'agit donc le plus souvent de stabiliser l'état d'un patient de façon à ce que celui-ci puisse ensuite être transféré dans un autre établissement hospitalier où il pourra être pris en charge plus spécifiquement.
Une fois cette mission sanitaire achevée, il est prévu que l'armée tchèque envoie en Irak également un groupe d'instructeurs militaires, un groupe qui sera chargé de former les collègues irakiens. Par ailleurs, toujours concernant les missions à l'étranger, mais cette fois de plus courte durée, un nouvel amendement à la Constitution, examiné lundi par le gouvernement, prévoit d'élargir le droit de ce dernier de décider de l'envoi de soldats sans qu'il soit nécessaire pour cela de solliciter l'accord des deux chambres du Parlement. La durée de ces missions serait limitée à 60 jours. Concrètement, ces missions pourraient servir par exemple à venir en aide à des ressortissants tchèques à l'étranger. Cette nouvelle mesure doit également permettre à l'armée tchèque de participer aux missions de la force de réaction très rapide de l'OTAN, une force capable de réagir dans l'urgence en quelques jours aux crises internationales. À l'heure actuelle, toute intervention de l'armée tchèque à l'étranger doit être approuvée non seulement par le gouvernement, mais aussi par la Chambre des députés et le Sénat. Si l'amendement en question est donc adopté par le Parlement, ceux-ci n'auront alors plus qu'une fonction de contrôle.
Faut-il ou ne faut-il pas vacciner ses enfants? C'est une question que se posent de plus en plus de parents tchèques. Et bien que chaque enfant doive être obligatoirement vacciné contre 9 maladies, le nombre de ceux qui ne le sont pas ou ne le sont que partiellement augmente assez rapidement, selon la Société tchèque de vaccinologie.
Nous avons été surpris que les producteurs n'informent pas de toutes les composantes d'un vaccin. Ils prétendent que c'est un secret industriel. Nous n'avons donc pas fait vacciner notre enfant de 3 ans car nous redoutons les effets secondaires et nous ne voulons pas prendre de risques.
Máme skutečně strach a zatím je to pro nás nepředstavitelné tohle riziko podstoupit.
Explique une mère qui a souhaité garder l'anonymat. Pédiatre de la région de Plzeň, Veronika Jilichová-Nová, confirme que cette position est relativement fréquente.
Je connais plusieurs parents qui sont venus me voir avant la naissance de leur enfant et m'ont tout de suite annoncé qu'ils ne voulaient pas le faire vacciner.
Les familles concernées qui s'exposent à une forte amende saisissent de plus en plus souvent la justice. En janvier dernier, la Cour constitutionnelle a rendu pour la première fois un verdict en faveur des parents en expliquant que la vaccination peut être refusée si elle est en contradiction avec l'état de santé de l'enfant, la religion de la famille ou, tout nouvellement, la conscience des parents qui protègent l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien que très critiqué par le ministère de la Santé, le jugement a ensuite été confirmé par la Cour administrative suprême. La semaine dernière, une décision similaire a été rendue par le tribunal régional de Hradec Králové en Bohême de l'Est. Cette fois, les parents avaient porté plainte contre une école maternelle qui avait refusé d'accueillir leurs deux filles parce que celles-ci n'étaient pas vaccinées, comme l'explique Zuzana Candiliota, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme qui a défendu la cause des deux familles.
Il s'agit d'une famille qui a 3 filles. L'aînée a souffert d'effets indésirables provoqués par le vaccin qui ont entraîné des problèmes chroniques de santé. C'est pourquoi les parents ont préféré ne pas vacciner leurs 2 autres filles. Le tribunal a confirmé qu'il fallait tenir compte de ces considérations de santé.
Même si Zuzana Candiliota ajoute que cette décision ne représente qu'une exception à la règle, le ministère de la Santé voit néanmoins dans ses verdicts l'acceptation d'une tendance plus générale. Celle-ci pourrait, d'après ses opposants, réduire l'importance de la vaccination obligatoire et menacer ainsi l'ensemble de la société. Cet avis est défendu également par Hanna Cabrnochová, la vice-présidente de la Société tchèque de vaccinologie.
Environ 10% des enfants en République tchèque ne sont absolument pas vaccinés ou ne possèdent tous les vaccins obligatoires. À l'heure actuelle, il y a même moins de 90% des enfants qui ont été vaccinés en 2 fois contre la rougeole, la rubéole ou les oreillons. Pourtant, la vaccination assure une immunité collective. Cela signifie qu'elle protège non seulement les enfants vaccinés, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être vaccinés pour des raisons graves.
Par ailleurs, selon certains experts de la Société tchèque de pédiatrie, des expériences menées dans différents pays confirment que la liberté de vacciner s'accompagne souvent de la réapparition d'infections considérées jusque-là comme disparues. Afin de faire évoluer l'opinion publique et motiver davantage les parents à vacciner leurs enfants, le ministère envisage de lancer une campagne d'information à laquelle certaines caisses d'assurance maladie pourraient participer. Mais cette campagne permettra-t-elle de dissuader les partisans d'une liberté de vaccination totale qui existe déjà en Allemagne, en Autriche, en Irlande et dans d'autres pays occidentaux? C'est là une question dont on entendra très sincèrement encore parler. C'est donc la fin de ces faits et événements. Merci pour votre attention et on passe à la deuxième partie de notre programme qui se poursuit avec la rubrique Panorama. Cela fait désormais un peu plus de 5 ans que SourceFabric, un institut de développement du logiciel libre, a été créé à Prague. Avec ses 70 employés, cet organisme à but non lucratif est vite devenu le plus grand développeur européen d'outils open source destinés aux médias. Lucie Drechselova a rencontré son cofondateur, Douglas Arlains, un expatrié américain qui vit en République tchèque depuis près de 25 ans. Et Douglas Arlains nous a d'abord fait visiter les Prague de SourceFabric.
Panorama.
Panorama.
No. Well, okay, so this is our office. Where we are right now, this is our meeting room.
Alors, voilà nos bureaux. Nous nous trouvons dans la salle de réunion avec des fenêtres en verre bombé et qui donnent sur l'église Saint-Sauveur. Et là, c'est mon bureau, dont la fenêtre donne sur l'église Notre-Dame de Tignes. Je suis très chanceux de pouvoir profiter de cette vue, car si j'ouvre la fenêtre, j'entends les cloches résonner. Et cette architecture magnifique est une source d'inspiration permanente.
I guess the view really works.
Elle marche plutôt bien, on dirait.
Yeah, a lot of software really depends on it.
En effet, beaucoup de bons logiciels dépendent de l'inspiration.
Et l'inspiration, l'équipe de Source Fabric n'en manque pas. En 6 ans d'existence, cet institut a développé 6 outils différents destinés à faciliter le travail des journalistes, professionnels comme amateurs. Mais avant de découvrir plus en détail ces outils, Douglas évoque le sens et l'importance du logiciel libre dans le domaine du journalisme.
An open source methodology means that all of the...
La méthodologie open source signifie que l'intégralité du code ainsi que toute la technologie qui se trouve derrière sont complètement transparentes. Si vous comprenez la technologie, vous pouvez procéder à vos propres adaptations dans le code. Beaucoup de médias aimeraient pouvoir faire cela, sauf qu'en utilisant un software commercial, cela est soit interdit ou alors très coûteux.
Normally with commercial software you can't, or if you can it's very expensive.
Le open source répond alors à une double logique. Le logiciel est à la fois libre d'accès, gratuit, téléchargeable en ligne, mais aussi transparent, ce qui signifie que tout le monde peut y introduire des modifications à condition de les signaler à Source Fabric. Douglas voit dans le logiciel libre une réponse aux besoins futurs. Car aujourd'hui, non seulement la technologie commerciale coûte cher, mais elle est souvent produite par des non-journalistes. Ainsi, Source Fabric entend diversifier le choix des outils technologiques dont disposent les médias, tout en mettant l'accent sur les besoins spécifiques du travail journalistique. Le logiciel de Source Fabric permet de créer une radio en ligne, d'éditer les livres ou de gérer des blogs, mais son vaisseau amiral est sans aucun doute le Superdesk, un système de gestion de rédaction virtuelle. Militant du logiciel libre, Jérôme Poisson, un informaticien français installé à Prague depuis plus de 6 mois, précise de quoi il s'agit.
Est-ce que vous pourriez parler de vous et depuis quand est-ce que vous travaillez à Source Fabric?
Alors, moi, je m'appelle Jérôme, je suis développeur donc. Et je suis arrivé à Source Fabric parce que je suis arrivé à Prague. Je travaille principalement avec le langage Python, donc je cherchais dans une entreprise qui était là-dedans. Et je cherchais surtout à travailler avec du logiciel libre, parce que je suis militant dans le logiciel libre. Alors, il y a deux choses qui m'ont beaucoup séduit quand j'ai vu l'annonce. La première, c'est que c'était du logiciel libre. Et la deuxième, c'est que c'était une entreprise à but non lucratif. Et l'autre avantage, c'est que je ne parle pas encore tchèque. Tout se fait en anglais ici, puisque c'est très international. Et du coup, j'ai pu arriver. Et avec l'anglais, j'ai pu faire un premier contact, les interviews, etc. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai eu le travail. Et donc, je travaille ici depuis avril dernier. Donc, ça fait 6 mois.
Alors pourquoi logiciel libre? Est-ce qu'on peut pour les auditeurs expliquer en quoi ça vous passionne? Pourquoi c'est quelque chose d'utile?
Oui, alors les logiciels libres, déjà c'est les logiciels qui ont 4 libertés de base, c'est-à-dire qu'on peut exécuter, qu'on peut modifier, qu'on peut distribuer, qu'on peut étudier. Donc c'est un mouvement qui existe depuis une trentaine d'années je pense maintenant. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on prend le logiciel au lieu d'être quelque chose comme une espèce de boîte noire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et on l'utilise, mais on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Là, on prend plutôt le logiciel comme une espèce de bien commun, donc que tout le monde peut participer et qu'on peut donc distribuer, utiliser gratuitement. On peut améliorer, on peut adapter à ses propres besoins, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une idée de bien commun.
Et vous travaillez ici sur le Superdesk.
En fait, c'est un peu comme une salle de rédaction virtuelle. En fait, ça permet aux journalistes de commencer un article. Il peut faire une recherche en cherchant, par exemple, il peut avoir les dépêches AFP ou Reuters qui arrivent. Il peut faire des recherches pour les images qui correspondent. Donc après, il va rédiger son article. Alors, il y a des tas de choses qui sont liées après au milieu journalistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle des techs, c'est-à-dire qu'on peut faire des mises à jour des articles, etc. Après, il y a tout ce qui est relecture par les autres journalistes. Enfin voilà, tout est pensé vraiment pour le milieu journalistique. Ça a été fait par des gens qui connaissent bien ce milieu-là, et donc c'est vraiment un outil adapté à ce genre de choses, quoi.
Et vous, quand vous venez au travail le matin, qu'est-ce que vous faites ?
Alors moi j'arrive au travail le matin, alors tous les matins on a ce qu'on appelle le scrum, c'est-à-dire qu'on a 10-15 minutes de rencontre, d'entretien avec nos collègues. Donc une fois que ça c'est fait, bah après on a toute une liste de tâches à faire, donc ça peut être soit des bugs à corriger, soit des nouvelles fonctionnalités à développer. Et donc j'en choisis une qui me plaît, je mets devant mon ordinateur et je commence à travailler dessus, à mon rythme et enfin, voilà, comment ça se passe, quoi.
D'accord, donc c'est un travail à temps plein pour beaucoup de personnes.
Oui.
Vous avez parlé un peu d'une journée ordinaire au travail, est-ce que vous avez un souvenir de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au cours de ces derniers mois ?
Bah, disons ce qu'il y a. Alors, il y a un truc qui se passe tous les ans, ça s'appelle le Source Camp. En fait, on a une semaine entièrement donc offerte par l'entreprise où on se retrouve avec tout le monde, c'est-à-dire y compris il y a des gens qui travaillent au Canada, il y a des gens qui travaillent en Amérique du Sud. Donc, on se retrouve tous là. C'était à Prague cette année. Et donc, il y a un premier jour en fait où il y a une activité tous ensemble. Là, on avait une espèce de jeux à faire dans la forêt en équipe, c'était assez sympa. Et après on a plusieurs jours avec des conférences, c'est une semaine un peu plus détendue. Et une chose qui est agréable, c'est qu'on a eu une journée de hackathon. Alors un hackathon, en gros, c'est quand on se retrouve pour une période entre développeurs et on travaille sur des idées qu'on a un peu comme on veut. Et c'était intéressant parce que du coup, on a pu essayer les idées qu'on avait sans que ce soit nécessairement un besoin client immédiat. Et donc moi, je travaille en fait sur un projet sur mon temps libre et sur un protocole qui s'appelle XMPP. Et du coup, j'ai pu intégrer une fonctionnalité testée sur Superdesk, ceci durant le hackathon. Et c'est quelque chose qui est vraiment agréable d'avoir ça dans cette entreprise, c'est qu'on peut en fait proposer des choses. Enfin, il y a quand même une écoute, on n'est pas du tout... juste là pour taper du code, il y a quand même une écoute et une collaboration qui est quand même appréciable.
Merci beaucoup.
Merci.
Les usagers de Source Fabric ont des profils très divers. En Europe, aux États-Unis ou en Australie, il s'agit le plus souvent d'agences d'information ou de projets journalistiques indépendants. Responsable de la section multimédia du site espagnol CTXT, fondé en 2014, Adriana Mora, que nous avons contactée par téléphone, nous donne une idée plus concrète de la chose.
I work for CTXT, which stands for Context and Action.
Je travaille pour CTXT, qui est l'abréviation de Contexte et Action. Nous sommes un site espagnol qui fait ce que l'on appelle du journalisme long. Je suis chargée de la section multimédia. Nous produisons un magazine hebdomadaire en ligne. D'habitude, nous faisons des papiers analytiques et plus en profondeur, mais de temps en temps, nous utilisons également l'application Liveblog de Source Fabric pour couvrir certains news en temps réel. Ainsi, les événements politiques et les matchs de foot sont couverts par le live blog.
Une équipe de 11 personnes employées à temps partiel et une centaine de contributeurs externes produisent une cinquantaine d'analyses par semaine pour le CTXT. Tout le côté informatique du travail est axé sur le logiciel de Source Fabric.
Nous l'utilisons depuis le lancement du magazine. Nous avons commencé par le Newscoop, un système éditorial par lequel nous téléchargeons nos papiers. C'est un logiciel intuitif. Il est très facile de travailler avec.
Adriana Mora de CTXT, qui collabore notamment avec Mediapart, un site français à vocation analogue, est convaincue qu'il existe une demande pour le journalisme long en Europe.
L'idée est de revenir aux racines du journalisme, informé, critiqué et contextualisé. Nous pensons que les médias du courant principal ont perdu cette capacité. Ce n'est pas simple de proposer du journalisme analytique, mais nous avons près de 800 000 lecteurs par mois qui passent en moyenne 10 minutes sur le site, ce qui est beaucoup pour ce type de site. Il y a donc de la demande et nous sommes principalement financés par nos lecteurs. Nous avons fait quelques campagnes de financement participatif qui ont très bien marché. Nous proposons aussi diverses formules d'abonnement. Nous faisons tout cela pour développer le journalisme indépendant.
Parmi les clients de Source Fabric se trouvent aussi des médias en Géorgie, en Azerbaïdjan ou en Afrique de l'Ouest. L'institut s'y implique souvent sur la base des projets financés par l'Union européenne qui visent à développer le journalisme indépendant. Douglas Arianes donne plus de détails sur les activités internationales de Source Fabric.
Une rédaction reste une rédaction, peu importe l'endroit dans le monde où vous vous trouvez. Les outils que nous développons pour un média comme Die Zeit en Allemagne peuvent être adaptés et réutilisés ailleurs. Par exemple, juste après le tremblement de terre au Népal, nous avons collaboré avec un journal de Katmandou, le Nepali Times, en leur fournissant un système de publication d'informations en temps réel. Bref, les outils sont les mêmes partout, mais leur partage définit l'aspect social de notre mission qui est de soutenir le journalisme, plus particulièrement le journalisme indépendant. C'est notre technologie qui nous permet de le faire.
Enfin, comment se porte le logiciel libre en République tchèque ? Un certain désintérêt médiatique dissimule, selon Douglas Arianes, une communauté d'initiés plutôt dynamique.
Among technically oriented people, open source is absolutely widespread.
Parmi les personnes qui ont un savoir-faire informatique, l'open source est très répandu. À Prague, ainsi, il existe plusieurs initiatives dont l'objectif est de populariser l'informatique. Il y a un meet-up appelé NAPIVO qui réunit des amateurs de Python, le langage de programmation. Puis il y a les Raygirls qui s'efforcent d'intéresser des filles à l'âge de l'adolescence au développement de software. Ces efforts phénoménaux sont open source dans leur philosophie comme dans leur pratique. Nous sommes là pour les encourager et nous espérons que certains pourront aussi adapter ce que nous avons déjà développé.
Après s'être inspiré notamment de la fondation Mozilla, du Linux ou d'Apache, tous étant des grands projets open source, Source Fabric a désormais pour idée principale de proposer aux médias des technologies libres adaptées à leurs besoins. Comme le souligne Douglas Arianes, le cofondateur de l'Institut, il veut mettre à disposition les outils nécessaires pour que les différents médias ne se concurrencent pas sur la technologie utilisée, mais davantage sur la qualité du contenu qu'ils proposent.
C'est ainsi que s'achève cette émission qui vous était présentée par Alžbieta Ruškova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr ainsi que nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!